Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être. C'est tous les matins de 11h à midi. Alors à présent, on va lancer comme tous les jours notre partie tendance. Et donc dans ce studio, il y a déjà Gavins Clémenté Ruiz. Bonjour.
Bonjour à vous. Bonjour.
Vous nous amenez où aujourd'hui?
Oh, partout en France, oh. Aux quatre coins de la France.
On va crapahuter.
Mais avec nos pieds, c'est ça?
Avec nos pieds et nos enfants.
Ah, ouais. Sympa. Il n'y a pas d'avion aujourd'hui, Julia, désolée. Tout ce qu'elle aime, les pieds et les enfants. Bon, restez bien avec nous, Gavins, car pour le moment, c'est Séverine Pierron qu'on va écouter. Bonjour Séverine.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des mèmes, ces images virales hyper codées qui envahissent le fil de nos réseaux sociaux et auxquelles franchement on comprend rien du tout.
Oui, alors vous avez déjà certainement croisé un mème sans vraiment le savoir, car sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram, Facebook, mais aussi TikTok, ils se multiplient de façon virale en détournant avec humour l'actualité. On en trouve des dizaines de milliers, même peut-être des millions, je ne sais pas, sur Internet. Ce sont les mèmes et ça s'écrit M-E, accent grave, M-E-S. Voilà.
C'est important de le dire, hein, parce que ça s'écrit pas avec l'accent circonflexe.
Voilà.
Hein,
c'est important de le dire. Alors, les jeunes générations sont dingues. C'est une sorte de sous-culture LOL, un LOL humour hyper référencé.
Oui, alors justement, à quoi reconnaît-on un mème?
Alors, comme je le disais, un mème, c'est une image détournée qui est augmentée, qui est reproduite à l'envi par les internautes. C'est une forme de parodie. C'est souvent drôle. Mais le mème peut aussi se faire politique. Alors, comment naît un mème? Au départ, il faut une image tirée de la pop culture, du cinéma, les séries ou aussi l'actualité politique. Ensuite, on vient y coller son commentaire, sa blague, sa référence, puis on ajoute des hashtags pour augmenter la viralité, par exemple. Et en fait, pour être plus précis, le nom mème, qui se prononce en VO, attention, mime.
Mime.
Ça vient du grec mimesis, qui a donné en français mimétique. En fait, ça veut dire qui se reproduit. Donc, la fonction principale du mème, évidemment, c'est de se reproduire.
Donc, c'est d'être viral. Vous connaissez ça, vous, Gavins, les mèmes?
Je connaissais le nom. Je ne suis pas rentré dans les détails comme Séverine, mais heureusement qu'elle est là.
Les mèmes, c'est la même image, si on comprend bien, qui est reproduite plusieurs fois avec des gens qui font des têtes pas possibles.
Alors,
c'est ça,
ça peut être. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, souvenez-vous, Olivier Véran qui a enlevé sa chemise pour se faire vacciner.
Ah oui, on se rappelle.
Bon,
ah oui.
Voilà. C'était une image d'actualité. Cette image, en fait, a été beaucoup reprise sur les réseaux sociaux.
Tout le monde a enlevé sa chemise.
Voilà. Alors, elle a été parodiée. Alors, soit parfois, c'était directement l'image d'Olivier Véran, donc l'image d'actualité, avec des commentaires écrits en typo dessus. Soit, en effet, des parodies où d'autres gens enlevaient leur chemise. Soit, par exemple, peut-être d'autres images qui seraient proches. Et l'idée, c'est en fait d'apporter son petit commentaire, d'être ironique, d'être parodique, d'être drôle. Il y en a eu d'autres, hein, des images tirées de l'actualité, comme par exemple Poutine, rappelez-vous, c'est assez récent, assis à sa gigantesque table de réunion.
Oui. Mmh.
Voilà, donc ça c'est une image assez frappante. Donc généralement les images qui deviennent des mèmes sont des images
fortes.
Soit voilà, des images fortes, soit des images ça peut être aussi des images assez banales mais qui permettent d'appliquer une sorte de storytelling personnel, c'est-à-dire une image banale, on va la transformer en racontant une histoire.
Heureusement vous êtes là parce que c'est pas simple, hein.
Non, c'est pas simple. Alors il y a eu aussi par exemple Macron avec son sweatshirt. En fait, toutes ces images ont été source d'inspiration pour les créateurs anonymes, souvent de mèmes.
Mais il y a Macron aussi avec les poils aussi, non?
Il y a les poils, il y a le sweatshirt, enfin toutes les photos.
Parfois il y a juste des enfants qui font des têtes pas possibles, qui recrachent ou des trucs comme ça, ils les mettent en boucle.
Voilà, donc ça peut être des images banales, par exemple, ça c'est pas très intéressant en soi, et donc l'idée c'est de mettre des petits commentaires.
Julia a pris l'exemple pas intéressant. Non mais quand je présentais le meilleur pâtissier par exemple, je recevais des mèmes et des gens qui se faisaient qui mettaient les doigts dans la bouche, genre c'est dégueu ce gâteau, vous voyez.
Ah oui.
Et ça c'est un mème ou pas?
Alors un mème, pour que ce soit un mème, faut quand même que ce soit viral, c'est-à-dire
la gifle de Will Smith. Ça on l'a vu partout.
Voilà, parce que ça c'est un très bon exemple. Voilà, on reprend l'image d'actualité, donc ça peut être soit ça peut être un gif, donc c'est une image animée, et ça peut être aussi une image statique. Donc en effet Will Smith, vous avez vu cette image où l'autre se prend la baffe et on voit carrément presque le visage déformé, Et donc ensuite cette image a été reproduite mais des millions de fois et chaque internaute peut y appliquer son commentaire. Donc il y a des mèmes aussi très anciens comme je sais pas si vous connaissez ce mème qui s'appelle Disaster Girl qui est en fait une petite fille qui ricane au premier plan et à l'arrière une maison en feu.
Ah oui, c'est affreux ça.
Bon voilà, bon je vous en passe parce qu'on a des tas. Alors l'idée c'est que c'est hyper codé et en fait il faut si vous voulez multiplier les références pour créer une connivence avec l'internaute. Voilà. L'esthétique parfois est assez moche ou basique, hein, mais ça c'est fait exprès. Sur les réseaux, figurez-vous qu'il y a même des gens qui en ont fait leur métier.
Ah oui, j'allais dire parce que moi je sais pas faire, hein, de toute façon.
Moi je voudrais fabriquer un mème,
mèmeur professionnel.
Voilà, il y a des gens qui s'appellent les mèmeurs.
C'est vrai.
Oh. Ouais. Ce sont et des mèmeurs, ce sont des fabricants de mèmes.
Et nous, on serait des mèmeuses alors avec
Julien, c'est des mèmeurs. Des mèmeuses aussi. Alors, j'aimerais en citer deux que j'adore sur Instagram. Il y a un mec qui s'appelle Yugnat999 qui s'appelle en réalité Tanguy. Et lui, il fait à peu près 10 mèmes par jour. Ah. Et il y en a un autre qui est assez cool, ce compte, c'est Couture Fu. C'est un compte qui s'intéresse à la mode, qui crée des mèmes autour de la mode et c'est vraiment hilarant.
Mais c'est pas un peu couillon tout ça?
Alors, écoutez, non, je peux pas vous laisser dire ça parce que le mème, c'est une nouvelle forme de narrativité créative. Avec sa propre grammaire visuelle, Julia.
Oh là là.
C'est un langage inventé collectivement, si vous voulez. Et figurez-vous même qu'un sémiologue et critique des médias, François Jost, il travaille pour le CNRS et il s'est récemment intéressé dans un livre éclairant que je vous conseille, qui vient de sortir, qui s'appelle « Est-ce que tu m'aimes ?»
Oh, génial.
Écrit comme un mème. Voilà, donc je vous laisse apprécier le jeu de mots. Donc, franchement, ce livre est très intéressant. Il y remonte le fil des mèmes et il décrypte leur fonctionnement. Et pour lui, les mèmes, ce sont la pure expression de la culture Internet. C'est une sorte de sous-culture qui va être absorbée par la culture dominante. Elle est en passe même d'être légitimée, si vous voulez, parce que les mèmes, ils sont partout. Même dans la pub, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est passionnant. Alors j'ai envie de faire un jeu de mots. Qui m'aime me suit.
Oh oh
hey, je sais, c'est nul.
Même pas mal.
Hey, non, mais il y en a des millions.
On va arrêter. Alors merci Séverine, en tout cas, pour ce décryptage qui était plus que nécessaire vu notre niveau de connaissance sur le sujet avec ça. Mélanie et Gavins. Bon, maintenant, on va passer à la chronique Voyage Évasion avec vous, cher Gavins Clément Terruiz.
À pied avec des enfants, attention.
Oui, mais pourquoi pas? Vous êtes notre chroniqueur voyage, vous travaillez au Guide du Routard et vous êtes intéressé à un phénomène qui peut toucher pas mal de familles, des parents, même des grands-parents. Ce sont les randonnées avec les enfants.
Et ouais, je trouvais qu'on n'en parlait pas assez. Souvent, on a dans les médias, on voit le GR20, c'est les chemins de randonnée. Ouais. On voit le chemin de Stevenson dans les Cévennes avec l'âne. Vous vous souvenez d'Antoinette dans les Cévennes qui fait le fameux. Bref, on voit ça. C'est surtout pour les adultes. Et je me suis dit, mais pourquoi pas avec des enfants? Je suis sûr qu'il y a des itinéraires un peu plus réservés à nos chers bambins.
Bah oui, parce qu'on peut pas faire 20 km. Faire 20 km, moi avec ma fille de 4 ans, je vois pas trop.
Non,
donc faut bien choisir, pas se tromper.
Ouais.
Qu'est-ce que vous nous conseiller de ne pas oublier déjà avant de partir en randonnée avec des petits.
Alors, dans mon sac, l'enfant déjà, il ne faut pas l'oublier, pardon, je rigole. Il faut emmener ses chaussures de randonnée,
une gourde,
le coupe-vent, de la crème solaire, faut faire gaffe, de l'eau, alors dans la gourde, lunettes de soleil, sac à dos, veste polaire.
Ce qui peut faire frisquer là-haut.
Il peut faire frisquer par endroit, puis le soir, si on fait un petit bivouac, dans un camping, ça c'est.
Mais on prend ses pieds, mais on prend des bâtons aussi pour marcher ou pas?
Alors, les enfants, ils aiment bien, ça les amuse. Ouais. C'est un peu, ça peut devenir un peu rapidement un peu énervant.
Après, quand il faut porter les enfants et les bâtons,
voilà, ouais. Il y en a des pliables. Il y en a des pliables. Et ouais,
et moi j'ai vu des bâtons qui font gourde, je vous promets, des bâtons.
On n'arrête pas le
buvez votre poignée de bâton.
Eh ben ouais. Non mais franchement, tous les ans, il y a des innovations au niveau de la randonnée, c'est vraiment super.
Mais on va où?
Alors, il y a les grands classiques, vous pouvez aller en haut du Puy-de-Dôme.
Ah, j'ai fait avec mes parents quand j'étais petite, c'est vrai.
Voilà.
Première randonnée finalement de ma vie, je ne savais pas.
Et ben voilà, c'était le chemin des muletiers, ma chère Mélanie, que vous aviez pris. Ça fait quand même 1465 mètres de haut quand on arrive au sommet.
Une sacrée belle vue en haut.
C'est beau. Alors le matin, c'est un peu dans le brouillard, je l'ai fait, je suis un peu frisqué, donc là la polaire, n'oubliez pas. Et puis vous montez, c'est vraiment magnifique. Mmh. Si vous avez un petit coup de mou, il y a le train, le panoramique des cimes, quand même, si vous avez les enfants.
On m'avait pas dit ça, qu'il y avait le train.
Si, quand même. Au cas où, il y a ça. Sinon, il y en a un autre qui est aussi rigolo, qui est un peu moins haut, c'est la dune du Pilat.
Sympa,
c'est la randonnée.
Ça.
Là, la promesse, c'est d'aller au sommet et puis de faire l'apéro ou.
Et de rouler dans le sable.
Et c'est bon pour la voûte plantaire.
Exactement.
115 mètres de haut.
Est-ce qu'il y a des tendances là, dans les randonnées avec enfants en ce moment?
Oui, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont tous donné le mot cette année, c'est la marmotte. Il y a des randonnées pour aller découvrir les marmottes un peu partout en France, même dans des endroits complètement insoupçonnés. J'en ai retenu une, c'est Pascal qui propose ça à Courchevel en Savoie. Il emmène les parents, les enfants depuis 6 ans, le matin, pour aller observer les marmottes dans l'habitat. Et on va enfin pouvoir répondre à la question: pourquoi les yeux des marmottes sont-ils sur les côtés? Vous avez déjà réfléchi à
la marmotte? C'est quoi la réponse?
Et vous irez faire la petite promenade. Ça dure 3 heures et ça coûte 10 euros par personne.
Bon, c'est pas mal. Et si je veux une randonnée, mais vraiment très insolite, est-ce que vous avez ça en magasin?
Alors, on a tous vu les randonnées avec à dos d'âne, mais j'ai découvert dans l'Orne, on fait les balades à dos de vache.
Oh non,
c'est près de
les
la roche. Oh, bah, ça va, elles ont le cul épais quand même. Hein.
C'est vrai. Parce que, franchement, je préfère que ce soit la vache qui porte les enfants que moi. Hein. En plus, non, mais c'est vrai. Mais des vaches normandes, alors?
Des vaches normandes, ouais. Alors, ça, je garantis des fous rires parce que l'équilibre est un peu moins garanti que sur l'âne, mais ça plaît beaucoup aux enfants, ça plaît beaucoup aux adultes. Et c'est près de la roche d'Ouêtre, un très très joli endroit en Normandie.
Mais je suis sûre, hein, toutes ces idées de randonnée avec les animaux, ça a trop la cote. Vous en avez une autre, peut-être, un peu originale, toujours tendance?
Quelque chose que j'ai testé, encore une fois, moi-même avec mes enfants, c'est chez Jean-Louis et Marielle Kuhn. Alors ça, ça va beaucoup plaire à Julia, c'est chez Carpe Diem Émotion. On est dans les Vosges, et là, en fait, ils sont mushers dans leur vie. C'est quoi des mushers?
Bah, ils ont des chiens husky.
Et ben voilà.
Des chiens traîneaux.
C'est pas, ils ont des Alaskans, très précisément. C'est pas des huskies, mais c'est des chiens traîneaux. L'hiver, ils sont sur la neige, mais quand il n'y a plus de neige, qu'est-ce qu'ils font? Et ben, en fait, vous mettez une espèce de ils appellent ça un slip en harnais, donc un harnais que vous passez autour de vous, et là, vous accrochez votre chien et il vous tire donc le chien traîneau, il vous emmène avec une grande laisse, on va dire, et il vous emmène en balade. Ouh, donc c'est une marche un peu sportive.
C'est du cani-rando.
C'est de la cani-rando, exactement.
Ça,
et c'est génial.
Et avec les petits, c'est pas dangereux,
et
ça
ben, si le petit est petit, on le met dans la carigoulette, comme il appelle ça Jean-Louis. Et c'est, donc là, le chien tire la petite carriole.
C'est super sportif en même temps.
C'est assez sportif, mais c'est sympa. Ça permet d'aller un peu dehors et de se promener et de voir de l'air.
Mais en fait, le secret, l'espace. C'est que j'imagine qu'il faut des objectifs, non, pour les enfants. Il faut faire comme une chasse au trésor.
C'est ça, c'est ça. Ce qui est sympa, c'est de donner des points, en quelque sorte, et donner des objectifs. Donc, à la fin, tu vas gagner ça, tu vas pouvoir aller voir en haut de la dune, tu vas pouvoir redescendre de la dune. Ou alors, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, il y a Terraventura. Je ne sais pas si vous connaissez ce système. Vous gagnez des points à chaque énigme résolue.
Ouh, ils vont adorer ça.
Et ouais, et des poise, ils appellent ça des poise. Et vous avez des points, et à la fin, vous pouvez dire qu'il a gagné, il est content.
Ça, ça va leur plaire. Merci beaucoup, Gabriel Clément et Ruiz. On rappelle qu'on peut retrouver toutes ces bonnes idées de randonnée avec enfants sur le site routard.com.
Exactement.
Et que vous êtes évidemment tous les samedis aux côtés de William Lémergie dans Samedi en France de 15h à 16h. Voilà, cette émission est terminée. Bien fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui. Mais nous serons bien entendu de retour lundi dès 11h. Julia, on va s'intéresser à quoi?
Eh bien, on va tenter de s'alléger lundi. Un sujet qui préoccupe pas mal de gens chaque année à l'approche de l'été. Comment perdre les kilos superflus? Mais on va vous proposer un angle d'attaque un peu différent de d'habitude. Comment perdre du poids quand on en a besoin pour sa santé, surtout en gérant mieux notamment nos émotions? On va vous expliquer cette méthode très intéressante.
Parfait. En attendant, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Alors, quel est le programme?
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Gros programme dans Europe Midi, évidemment, comme tous les jours. Tiens, parmi les sujets qu'on va aborder, la fin de la redevance télé dès la rentrée prochaine, si la majorité actuelle est reconduite à l'Assemblée nationale, bien sûr. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On va en débattre. Vous appelez le 39 21 et vous passerez à l'antenne.
Merci beaucoup Romain. À tout de suite.